Oui, on y va. Alors, ce sujet, on a déjà commencé il y a 3 semaines.
On ne parle pas.
On a commencé il y a 3 semaines, mais je reprends. C'est un sujet névralgique et qui demande de la maturité. Donc, je pense qu'on peut tous aller se coucher parce que la maturité, je ne sais pas si on a vraiment beaucoup de maturité. Vous allez voir, ça touche des points qui, comment dire, on est un peu gêné d'enseigner, d'étudier et d'enseigner. Donc, chapitre 11. Donc, il y a eu des guerres contre... contre Israël, et les gens de Ammon ont fait la guerre, font la guerre contre les enfants d'Israël, et Avishai et Yoav partent pour faire la guerre et font le siège de Rabbath ben Ammon, de la capitale des gens d'Ammon, qui est en vérité Amman aujourd'hui en Jordanie. Chapitre Yud Alef, Pasuk Alef, deuxième livre de Shmuel. Vaïl et Tshuva Tashana, Leetset Amelachim, Vaishlar David et Yoav et Avadav Imo, Israël, Vaishritu et Ben Amon, Vaishuru Al Rabba, Vedavid Yosheb Yerushalayim. Ce fut le retour de l'année au moment où partent les émissaires. Les commentateurs expliquent qu'on ne fait pas la guerre à n'importe quel moment. Le printemps est un moment propice pour faire la guerre, où il y a de l'herbe commence à pousser dans les champs et que les chevaux commencent à avoir de quoi manger. Donc, c'est au moment où on part à la guerre. Il faut savoir que la guerre, en tout temps, pratiquement, ça a presque tout le temps été avec des soldats de métier. Ce n'est pas une mobilisation générale. Là, ce sont des soldats de métier. Hein? Il y a la période où on fait la guerre.
Il est là. Je le vois là.
Pour les personnes ne parlant pas, si vous pouvez mettre les micros en mute, s'il vous plaît.
Vaishlar David et Yoav. David a envoyé Yoav, son général en chef, et ses serviteurs avec lui, et tout Israël. Et Vayashritu et Bené Amon. Ils mirent les gens d'Amon ils les déchiquetèrent et ils ont fait le siège de Rabba, la grande ville des gens d'Amon, Rabba de Namon. Et David est installé à Jérusalem. Bon, alors là, il y a un point particulier que les commentateurs relèvent.
Il y a un problème avec le micro, malheureusement.
C'est-à-dire, c'est moi, non? Quel est le problème?
Alors, on va se donner une consigne. Je quelqu'un parle.
Oui, mais je peux le fermer si vous voulez. Je le ferme.
Qu'est-ce que tu fermes?
Le micro de monsieur.
D'accord. Ok. Alors, les enfants d'Israël ont dit à David, ne pars pas au front, ne pars pas au front, parce qu'on a besoin de ton mérite, toi qui étudies la Torah, reste à Jérusalem, et nous allons faire la guerre. Donc on se partage le travail, David reste à Jérusalem, il étudie. Parce que dans notre tradition, David est un homme d'études. Tu étudies, tu pries, et nous, on va faire la guerre. On se partage le travail. Et d'un autre côté, il y a quand même un déséquilibre. Le verset met ce déséquilibre en relief. Ils font le siège de Rabba, et David est installé à Jérusalem, si vous voulez. C'est quand même un roi à sa cour. Il mange Sirat Loukoum, et ses soldats sont là-bas dans les champs, sous la pluie battante, ils risquent leur vie. Donc il y a un certain déséquilibre qui est au désavantage de David, comme on va le voir tout de suite dans le verset bête. Alors je reprends en un mot, ce passage, on l'a déjà vu en une première lecture il y a 3 semaines, mais je le reprends. Vayi le et à Erev, Vayakom David Meal Mishkavo. Meal Mishkavo, Veitaler al Gag Bet Ameler, Vayar Isha, Rochetset, Meal Gag, Vaisha Tovat Mare Meot. Ce fut vers le soir, David se lève de sa couche, il alla vers la, sur la terrasse de la, du palais royal et vit une femme qui se lave au-dessus d'une terrasse. Et la femme est exceptionnellement belle. Bon, alors, on sait bien qu'il y a dans ce verset une anomalie. Même les fêtards, ouais, disons que nous soyons des grands fêtards, disons, on a fait la bringue toute la nuit, on se lève, disons, à midi. Mais on ne se lève pas vers le soir, n'est-ce pas, monsieur El-Kaïm, que je vois en face de moi. Ouais. On ne se lève pas vers le soir. C'est quoi cette idée que David se lève vers le soir? Ça, c'est la première chose. Et il se promène sur la terrasse du palais royal. Alors, se promener sur la terrasse, on voit ça lorsque le prophète Shmuel a désigné Shaoul pour être le roi. Ils sont allés tous les deux sur la terrasse et parlèrent de paroles de Torah toute la nuit sur la terrasse. Les commentateurs relèvent, il alla sur la terrasse, c'est-à-dire que David savait qu'il avait un destin, pas seulement individuel, mais un grand destin, puisqu'il avait demandé à Dieu d'être le quatrième pied de la présence divine sur terre. Les 3 patriarches étaient les 3 premiers pieds de la présence divine sur terre, et il a demandé, éprouve-moi, donne-moi des épreuves pour que je sois le 4e pied. Donc, il avait une conscience, une conscience messianique. Et c'est ça, quand on dit il va sur la terrasse, c'est-à-dire il y a le ciel au-dessus de lui, et il a une vision quasiment prophétique de son destin. Alors qu'est-ce que c'est? Là juste, et il voit une femme qui se lave sur une autre terrasse. Qu'est-ce que c'est toute cette histoire? Alors, les Chachamim disent dans le traité Shabbat, David avait un problème, qui est un problème humain fondamental. Comment gérer ses pulsions? Comment gérer ses pulsions? Et lui, pour pouvoir être tranquille le soir, pour pouvoir étudier, parce que la nuit est propice à l'étude de la Torah, pour être disponible, il allait avec ses femmes en fin d'après-midi, et pour être, si vous voulez, disponible, ne pas être obsédé. Et les Chachamim disent que là, il s'est trompé. Parce qu'en vérité, les pulsions sensuelles de l'homme, plus il écoute ses pulsions, plus il est addict à ses pulsions, plus il est avide de ses pulsions. Et là-dessus, les Chachamim disent que il s'est... Excusez-moi, je vais comme ça parce qu'il y a des gens qui m'envoient des messages. Donc là, il s'est trompé. Il s'est trompé. Alors, il y a un contemporain qui s'appelle un Rav Shabtai Weiss qui a écrit des livres sur les prophètes, des livres absolument magnifiques. Et sur le livre de Shmuel, je vais vous lire qu'est-ce qu'il dit. La Gemara dans le traité Shabbat dit: alors, regardez que ça soit important, hein, que ça soit important. Nous faisons une étude. Cette étude, il est important que cette étude, même s'il y a des parasitages de son, mais que ça soit malgré tout une étude commune. Si vous avez vous voulez intervenir, il faut que vous interveniez. Parce que moi, je sais qu'est-ce que je veux enseigner. Donc, si vous voulez, si ça, faire un monologue, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Alors, ce que vous venez de dire m'intéresse. Parce que vous avez dit que c'est une erreur ce qu'a fait David Ameller en s'occupant de sa sensualité avant d'aller étudier, n'est-ce pas ?
Non, c'est pas ça du tout.
Ah, alors j'ai mal compris.
Non. La sensualité, c'est très très bien. Non, c'est pas ça du tout.
Alors, en quoi consiste son erreur, là ?
Son erreur, regardez, je vais lire la Gemara. Vayelet erev vayakom David mal mishkavo. Ce fut vers le soir, David se leva de sa couche. Amar Rav Yehuda, afar mishkavo shel laila mishkavo shel yom. Il a inversé la couche de la nuit en la mettant le jour. Nitalma mimeno alacha lui a échappé une alacha. Ever katan yeshbe adam masbio raev marevo saver. Il y a un membre petit chez l'homme. Si tu l'abreuves, il est affamé. Si tu l'affames, il est abreuvé.
D'accord.
Ça veut dire que si tu as un besoin, tu veux l'assouvir, il est encore plus assoiffé. Si tu le retiens, alors, il n'est pas assoiffé.
D'accord.
Là-dessus, il s'est trompé. Alors, le commentaire là, du Mishbetzot Zav, il dit la chose suivante. Il dit que... Essayons de réfléchir comment ça se fait que c'est comme ça. Nous, en vérité, le Yetzerara, c'est-à-dire le désir pulsionnel de l'homme, et d'un désir extrêmement positif. Extrêmement positif, en cela que s'il n'y avait pas ce désir, on ne serait pas là. C'est ce que j'enseigne à mes élèves, les Chachamim disent, c'est Tov Meod. C'est très très bien, si c'est parfait. Maintenant, la question, c'est quoi faire avec ? Maintenant, alors, il y a une grande différence. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas s'il y a des zoologues parmi vous. Peut-être notre ami Eliaou, là que je vois en face de moi. Non, tu n'es pas un zoologue.
Je ne suis pas zoologue.
Ah, tu n'es pas zoologue. Qu'il y a quelque chose de très particulier chez l'humain. C'est que sur la plupart des animaux, la saison des amours. Les animaux qui sont en rue, à une période particulière. Mais l'humain, il n'y a pas de période. L'humain, il n'y a pas de période. C'est ça peut se renouveler, ça se renouvelle. Et donc, il y a une difficulté de gérer cela. Alors, David voulait gérer. Son erreur, c'est qu'il voulait gérer la chose. Maintenant, Comment comprendre cette soif ? En vérité, il y a une soif qui est inextinguible. Alors, lui, il dit dans son commentaire que Rambam dit que, et ça, on voit aussi un lien entre ce que dit Rambam, Maïmonide et les Kabbalistes. Le Zohar dit que les pulsions de l'homme lui sont données fondamentalement pour l'étude de la Torah. Que l'étude de la Torah est infinie. Et en vérité, plus on étudie, plus on a envie encore d'étudier. Il rapporte une histoire qu'a racontée un grand rav qui était en Amérique qui s'appelait Rav Mordechai Gifter. Rav Mordechai Gifter, il était à l'échiva de Telz en Lituanie, avant la Seconde Guerre mondiale. il raconte qu'à Shavuot, il y avait deux bachourim de l'Eshiva de Telz.
Tout à l'heure, elle disait tout à l'heure.
Il y avait deux bachourim de l'Eshiva de Telz, le Shavuot après-midi, qui se promenaient. Et dans ce shtetl, il y avait un des balabaïtes qui a vu ces deux bachourim se promener Shavuot après-midi. Il dit, comment le jour de Shavuot, vous, bachourim Yeshiva, vous avez pu sortir du Beit HaMidrash? Alors les bachourim, ils ont dit, mais monsieur Rebersl, mais on a étudié toute la nuit et aussi toute la matinée, on peut bien aller se promener. Alors le Rebersl, il leur a dit, mais je ne comprends pas, est-ce que vous avez vu un ivrogne qui en a marre de boire du vin? C'est-à-dire qu'en nous, il y a une dimension, il y a des choses que, bon, ça suffit, voilà, on est arrivé. Mais ce que les Rachamim disent, OF Kesef, l'O Isba Kesef. Quelqu'un, il veut de l'argent, il ne sera jamais rassasié d'argent. Cette pulsionnalité en nous, ce mouvement, il ne trouvera jamais sa satiété dans des choses matérielles dans le monde. Les choses matérielles du monde, j'arriverai jamais à satiété. Ça veut dire quelqu'un, il veut savoir, quelqu'un, il dit voilà, moi je veux savoir qu'est-ce que c'est le plus grand plaisir possible. Le plus grand plaisir possible. Voilà, pas simplement la petite taffina. Ouais, mais le plus grand plaisir possible. Pas seulement le petit verre de boucha, mais le plus grand plaisir possible.
Deux verres de boucha.
Ah, intervention remarquée. Voilà. Le plus grand plaisir possible. Alors on va lui dire, voilà, c'est telle chose dont la décence ne me donnera pas la possibilité d'expliciter. Et finalement, il arrive à assouvir cette attente. Il faut savoir, qu'il ne sera pas assouvi.
Ça vous dites dans l'étude de la Torah, c'est pareil.
Comment ?
Vous dites dans l'étude de la Torah, c'est pareil.
C'est la différence. C'est la Torah, la différence. C'est que quelque chose de matériel est fini. Ça veut dire. Disons que nous ne soyons pas en confinement. Disons que le plus grand resto mondial soit un restaurant kasher, pas cher.
Ah voilà.
Monsieur Shalom.
Kasher, ah voilà. Pas j'ai cher, trouvé enfin.
Et à Paris. À Paris. Okay. Donc là, au lieu d'être sur notre vidéoconférence, on va ce soir dans le plus grand restaurant et on va goûter.
Comment ?
On va goûter les plats les plus incroyables, les plus raffinés. Eh bien, une fois qu'on aura goûté ces plats les plus incroyablement raffinés, on aura envie d'autre chose. Ça ne s'arrêtera pas là. Parce que ça s'arrête là. C'est fini. Mais il y a quelque chose qui est infini. L'étude de la Torah, elle est infinie. Comme dit le verset, dit Rol tichla raitiket rechavera rachava devarecha meod. Le roi David, il a dit, à toute fin, j'ai trouvé une finitude, mais ta parole est très large. Elle est large fondamentalement. Donc, cette pulsionnalité de ne pas trouver de satiété, elle est donnée fondamentalement pour l'étude de la Torah. Et ici, le roi David, pour une question, pour une raison que j'ignore, il croyait qu'en assouvissant son désir, il serait tranquille.
D'accord.
En assouvissant, et non, il n'est pas tranquille. Ça, c'est un truc. Et ce qui est impressionnant, c'est que nos maîtres appellent ça, dans le traité Shabbat Daf Nun Vav, ils appellent ça halakha. C'est une halakha.
D'accord.
Pourquoi ça s'appelle halakha ? Déjà, il y a 3 semaines, n'est-ce pas, pour les habitués de cette étude, on s'était posé la question, pourquoi ça s'appelle halakha ? Je ne sais pas. Au sens simple, je dirais, parce que l'homme ne peut pas avoir du recul par rapport à ça. Il faut recevoir cet enseignement. C'est parce que notre expérience est trop limitée. On peut pas, notre expérience, toi tu dis, notre expérience humaine, on ne peut pas avoir un côté exhaustif vraiment par rapport à ça. On a des expériences qui finalement sont limitées. On ne peut pas avoir fait le tour du sujet. Semble-t-il, c'est pour ça qu'on appelle ça.
Okay. Oui. Important, ça veut dire ce truc d'illimité, il y a quand même un endroit où on peut le mettre. Ce n'est pas juste à foutre à la poubelle.
Non, au contraire, c'est très positif. C'est très, très positif. Alors, Maïmonide, évidemment, c'est le grand chef, surtout, hein, il met tout en chaos technique. Maïmonide, il dit, à la fin des lois relatives aux interdits sexuels de la Torah, il dit, l'homme, fondamentalement, est obsédé. Il ne faut pas dire, ouais, par exemple, quand on dit, ouais, espèce de macho, etc., tu n'as rien dit. Un homme, c'est, par définition, un obsédé. D'ailleurs, comme disait notre maître, Alav HaShalom, j'ai cité...
Brassens.
Non. Georges Volinsky, Alav HaShalom, Hachem Inkom, un mot, ouais, disait, je ne pense qu'à ça.
Les hommes ne pensent qu'à ça.
Ouais, ne pensent qu'à ça. Ce qui est un fait et ce qui est bien. Mais comment gérer ça? Alors, Maïmonide dit, première chose, il ne faut jamais être seul avec une femme qui nous est interdite. C'est un interdit de la Torah, c'est un interdit de Yehoud. Ne crois pas que tu es au-dessus de ça. C'est interdit par la Torah d'être seul avec une femme qui nous est interdite. C'est la première chose. Mais Maïmonide dit plus que ça, que les pensées obsessionnelles n'existent que dans le cœur vide de la connaissance. Mais l'homme qui est investi dans la connaissance, en l'occurrence de la Torah, alors là, le pasouk dit « Ayelet ha'avim ve'yalat ren » que la Torah est la biche aimée qui trouve toujours un charme renouvelé. C'est au sujet de la Torah « Ayelet ha'avim ve'yalat ren » c'est la biche aimée qui renouvelle toujours son charme. Pourquoi ? Parce que cette pulsionnalité qui en vérité n'est pas limitée, elle trouve son champ dans quelque chose d'illimité et qui ne s'arrête pas, qui s'appelle l'étude de la Torah. Donc ça, ce qui est aussi important, c'est que Maïmonide, en disant cela, rejoint les kabbalistes qui disent que le Yetzer Hara n'a été fondamentalement créé que pour la pulsionnalité de la recherche du goût de l'étude de la Torah. Moi, je dis souvent, par exemple, l'étude de la Torah, c'est quand tu vois la chose, tu sens qu'il y a quelque chose, mais tu ne comprends pas. Tu as envie de chercher. Cette envie, c'est une pulsionnalité. Ok, on va continuer.
Alors non, maintenant... Juste un...
Oui.
Pardon, mais juste un truc. Ça peut être désastreux dans le cas d'un homme qui fait teshuva, qui passe un an dans une yeshiva et qui est conditionné par cette chose-là, c'est l'étude de la Torah, l'amour d'Akadosh Baruch Hu et le fait que, bon, la sensualité, on la met de côté parce que...
Non, cher ami, c'est pour ça qu'un homme juif doit être marié.
Oui, mais alors, d'accord, mais alors, étant marié au bout d'à peu près un an, il est formaté par ça, il ne sait pas assez de choses sur le comportement avec une femme au niveau de halakhique, je veux dire.
Oui, oui.
quelle portion donner à l'étude, quelle portion donner à la prière et quelle portion donner à sa femme, qui est en demande énorme, ça peut être catastrophique tout ça.
C'est vrai. Alors ?
Alors, je divorce au bout de 6 mois. Parce que j'ai pas su gérer cette chose-là et que, ayant été conseillé par des rabbanim, pardon de parler de mon cas, hein, juste parce qu'il me semble que c'est un tout petit peu le truc, alors je me préparerai pour on verra quoi, mais j'ai appris que la femme était la priorité. Et donc, j'ai pu essayer de mettre à côté. Mais qu'est-ce que ça a été difficile ?
Oui, vraiment. Ben j'ai jamais dit que c'est facile.
Voilà, c'est très difficile. C'est important, voilà. Souligner. C'est très
ça, moi, j'ai appris d'un de mes maîtres, ce qui est très, très bien là-dedans, c'est le fait que nous soyons perturbés. Ce qui est très bien, c'est que ça nous enlève notre orgueil.
Oui, c'est vrai.
Le, si vous voulez, bon, moi je ne sais pas qu'est-ce que c'est les moines, mais quelqu'un qui serait dans une dimension de prishut, dimension d'abstinence, donc il n'est pas dans une dimension de perturbation et il risque d'être orgueilleux. Et en étant marié et en ne sachant pas bien gérer justement un équilibre dans ce sujet, au moins, ça nous rend simple. Et c'est difficile, mais ça nous rend simple. On n'est pas orgueilleux, ce qui est formidable.
Sans aucun doute.
Hein, ça, c'est bien. On a gagné ça, on n'est pas orgueilleux. Alors, on y va. Alors maintenant, comment notre chassid, comment notre tzadik, il voit une femme se laver en haut d'une autre terrasse. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, il y a effectivement beaucoup de commentaires là-dessus. Il y a un midrash qui dit, c'est une Gemara qui dit qu'il y avait un mikvé sur sa terrasse. Elle sortait du mikvé et il y avait un drap pour qu'effectivement personne ne puisse la voir. Mais David avait demandé à Dieu, amène-moi une épreuve. Il ne savait pas d'où est-ce qu'elle viendrait, cette épreuve. Et il y a un oiseau qui passe, et David voit cet oiseau, il prend une flèche, lance la flèche sur l'oiseau, et la flèche, en vérité, elle dévie, elle déchire le drap, et voit la femme. Il ne voulait pas la voir. Mais il voit cette femme, et il désire cette femme. Alors, je vais vous lire des commentaires là-dessus. Alors, donc, il ne voulait pas voir cette femme, mais par incident, de manière incidente, il a vu cette femme. On voit aussi, c'est quelque chose que j'ai vu peut-être avec certains d'entre vous, d'Afkaf dans Maseret Avodazara, que Rabbi Akiva a vu la femme de Tournus Rufus, le rachat, qui venait le séduire. Rabbi Akiva, donc c'était le gouverneur romain de l'époque, s'appelait Tournus Rufus, et il a dit à sa femme d'aller séduire ce rabbin, parce qu'il dit, bon, les hommes de religion, je sais comment les faire chuter, c'est facile. Il a envoyé sa femme, qui venait sûrement de Chinechita, vous comprenez, va donc séduire le rabbin. Elle arrive, Rabbi Akiva l'a vu, il a craché, il a pleuré et il a rigolé. Alors les Chachamim disent, comment ça se fait qu'il a vu cette femme, comment ça se fait que Rabbi Akiva a vu la femme de Tournus Rufus? Parce que les Chachamim nous disent qu'on n'a pas le droit de regarder, on n'a pas le droit de regarder une femme qui n'est pas sa femme. C'est interdit. On apprend des versets de la Torah qu'une femme qui nous est interdite, on n'a pas le droit de la regarder. Alors comment Rabbi Akiva a-t-il pu regarder cette femme? Les Chachamim nous disent que c'était son regard est tombé sur elle, il ne la regardait pas, et son regard est tombé sur elle. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il a craché, il a pleuré et il a ri, les Chachamim disent, la Gemara dit là-bas, parce qu'il a vu que cette femme allait se convertir et que Rabbi Akiva allait l'épouser. Donc finalement, le tzaddik qui ne regarde pas quelque chose d'interdit, qui garde son regard pour lui, si il voit subrepticement quelque chose sans chercher à le regarder, s'il voit, c'est qu'il y a quelque chose à voir. Alors, je vais vous rapporter ça. Dans le livre, là, il rapporte une histoire d'un élève du premier rabbi de Satmar. Le premier rabbi de Satmar, il a écrit un livre qui s'appelle Ismar Moshe. Donc, c'était un chassid, là-bas en Hongrie. Et donc là, ce que je vais dire, il faut un peu de la sagacité. Ce n'est pas à notre niveau, hein. Ce n'est pas à notre niveau, mais je pense que c'est important pour comprendre notre passage. Il y avait donc ce Talmid, ce chassid, au marché. Il a vu une jeune fille juive qui vendait des fruits. Et lui, il ne regarde jamais les femmes. Il ne regarde jamais les femmes. Et le fait qu'il l'ait vu, il s'est dit, je veux réparer le fait que j'ai vu une femme que je ne devais pas voir en l'épousant. Lui venait d'une grande famille juive. Les parents n'étaient pas d'accord qu'il épouse cette juive, mais qui vendait des fruits au marché. Le fils a insisté de l'épouser pour réparer cette faute que finalement il a vue. Et le premier rabbi de Satmar, il lui a promis que de ce couple, il y aurait des générations de tzadikim, effectivement, et sont sortis de ce couple des générations de tzadikim. Alors, j'aimerais développer avec vous cette chose-là, mes amis, là. Je ne sais pas qui j'ai en face de moi. Ça va, Eli?
Ça va, Baruch Hashem.
Ça va, Saboum?
Vous préférez que je mette la vidéo?
Comment?
Vous préférez que je mette la vidéo?
Je ne sais pas, moi, c'est un peu impersonnel, là, en face de moi. Là. C'est plus sympa quand il y a un peu des visages.
Ouais, parce que... Hein? Ça ne marche pas.
Oui, alors, regardez.
Tu m'entends, Gérard?
Oui, c'est qui que quoi?
C'est Guy de Natania.
Oh, from Natania. Il y a aussi notre ami Yohanan, là, from Yerushalayim.
C'est comme une faute.
Oui, bon. Tout à fait. Alors, regardez, les amis. Le point, c'est le regard. Le regard est quelque chose de très trompeur. On peut voir comme un objet qui a un design parfait, mais peut-être c'est de la camelote. Oui. Donc, tu peux faire un gâteau, par exemple, avec des colorants et des trucs brillants, mais le goût, il n'est pas bon. Donc, le regard est extrêmement trompeur. Ça, c'est n'importe qui comprend ça. Maintenant, on dit « Sheker Achen » et « Veleyofi » la grâce et du mensonge et la beauté et de la vanité.
Et Shetraïl.
Comment ?
Et Shetraïl.
Pas mal. Alors maintenant comment ici, David, il a vu par accident finalement cette femme, il a vu qu'elle est très belle. Alors les commentateurs disent elle est très belle. C'est comme les matriarches sur lesquels on dit qu'elle est très belle. Fondamentalement, la beauté, et le Maharal développe beaucoup ça, la beauté signifie quelque chose. Ce n'est pas n'importe quoi la beauté. La beauté, souvent on peut se demander comment ça se fait que Dieu il a fait un monde très beau. Le matin, les oiseaux chantent. C'est extraordinaire. Pourquoi il a fait que les oiseaux chantent ? Il aurait fait un monde où les oiseaux chantent pas. Les oiseaux chantent, c'est extraordinaire. Des fois.
Hello.
Des fois même. Moi, je dirais. Je vais dire un peu quelque chose de scabreux, qui est un peu le sujet. Des fois, je suis un peu déprimé, un peu triste. J'ai pas la pêche. Je sors. Je vois, je sais pas, des jeunes gens, des jeunes filles. Qui sont mignons, ça donne la pêche. Ça donne la pêche. Le monde est beau. La beauté, c'est pas que de l'illusion. La beauté, c'est pourquoi la Torah nous dit toujours sur les matriarches qu'elles sont très belles. Et là, le verset nous dit exactement comme les matriarches, Vaisha tovat mare meod. Et la femme est très belle. Aïcha, Tovat, Maré, Méod, la femme est très belle comme les matriarches. Alors les commentateurs disent que quand il ne cherchait pas à la voir, mais quand il l'a vue, il a compris que c'était sa femme. Parce qu'il ne cherchait pas justement à la voir. Mais ça, j'aimerais qu'on ait un dialogue là-dessus, parce que ça ne sert à rien que je raconte mon blabla s'il n'y a pas de dialogue. Messieurs.
Alors la première, il y a une chose que j'ai entendu et que je trouve pas mal du tout, c'est quoi le visage ? C'est Panim. Et il reflète, dit-on, l'intériorité, parce que c'est la Pnimout, l'intériorité. Et je trouve ça extraordinaire que la beauté ou ce qui illumine dans un visage, ce soit l'intériorité. Donc, il y a un lien entre la beauté, et on a raison de l'admirer, et l'intériorité d'une personne aussi. C'est pas que faux.
Oui, mais une fois j'ai entendu il y avait un chercheur dont là j'ai oublié le nom. Il dit que le sens de la responsabilité de l'homme est normal qu'il épouse une femme, mais en vérité, s'il s'écoutait, il les épouserait toutes. Non, ça veut dire, si on te suit, cher ami, on ne va pas loin. Oui, on ne va pas loin.
Pauvre de nous.
Comment ?
Pauvre de nous.
On ne va pas loin. Donc maintenant, ici, je reprends ce verset. Je reprends le verset. Ce fut vers le soir, il se lève de sa couche. Il va sur la terrasse du palais royal. La terrasse du palais royal, c'est une dimension supérieure. C'est le roi David, dans toute sa grandeur spirituelle. Il voit une femme qui se lave sur une autre terrasse et la femme est exceptionnellement belle.
Mais c'est une échatiche.
Comment ?
C'est une échatiche. C'est une femme mariée ?
Il ne sait pas, il voit qu'elle est très belle. Il voit qu'il y a une beauté particulière qui s'exprime de cette femme. J'aimerais ici, si vous voulez, relever un point qui est subtil et je sais presque incommunicable. Et j'aimerais que, oui, on fasse l'exercice. L'œil, en hébreu, ça se dit « aïn ». Aïn, c'est comme une source, Mayan, c'est une source. On voit en Israël, il y a par exemple Ein Gedi, la source du chevreau. L'œil, c'est une source. Mais l'œil, il est, nous, on le perçoit comme passif, on reçoit. Or, la source, elle est active. Or ici, les commentateurs disent que le tzaddik qui a une qui ne regarde rien qui lui est interdit, qui a une discipline extrême par rapport à son regard, une discipline drastique par rapport à son regard. Si, à un moment, il voit, son regard exprime quelque chose. Son regard exprime. Et c'est ça, ici, ce qui se passe. Il voit que cette femme, c'est sa femme.
Est-ce que David, il a une discipline très forte par rapport à son regard ?
Comment ?
David, il en voit des tas des femmes.
Il en a pas mal hein, dans son harem. Ah. Oui. Alors, ah, pourquoi ouais. Elles lui sont permises.
Elles lui sont permises. Mais c'est comment ça se fait qu'il y en a une ? Ça devient une trajectoire. C'est il va passer l'après-midi dans son lit avec elle. Elle, tout à coup, c'est quelque chose qui va s'écrire. C'est ça la différence.
Voilà. Ça c'est délicat. C'est ce que nos maîtres disent, que Bathsheba était sa femme depuis l'ordre de la naissance. Depuis l'ordre de sa création. Ok. Ok, je soulève. Je ne domine pas vraiment, Damien. Je reste avec ta question. Je suis en travail sur cette question. Je ne suis pas arrivé au bout de cette question. Je reprends la question de Damien, puisque là, il avait déjà plusieurs femmes, et non des moindres. Et non des moindres, comme on a vu dans les chapitres précédents, il y avait Abigail, il y avait Michal, il y avait Avital, il y avait des femmes. On dit que Abigail, c'était une prophétesse. Et Michal, la fille de Shaoul, on l'appelle parfois sa femme. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose de nouveau qui s'exprime. Quelle est cette nouveauté ? Tellement que les Chachamim nous disent que c'était la femme de David. Structurellement, c'était sa femme. Structurellement, c'était sa femme. Alors, on va continuer. Continuons le verset Gimel. Vous avez le verset ?
Ben oui. Vaishla.
Vaishla, David, Vaidrosh, Laisha, Vayomer. Allô, Zot, Bat, Sheva, Bat, Eliam, Eshet, Uria, Ariti. Donc il voit cette femme, il envoie des émissaires, Vaidrosh, Laisha, il demande qui c'est cette femme. Il a dit. Mais c'est Bathsheba, la fille de Eliam, la femme d'Uria, le Hiti. Bien. Alors, il y a trois semaines, avec plusieurs d'entre vous, nous avons déjà vu ce verset. Mais c'est comme les lois qui passent au Parlement, ça passe en seconde lecture. N'est-ce pas ? Et il y a une anomalie dans le verset. Est-ce que vous êtes tous dans une empathie que vous voyez une anomalie dans le verset.
Vayomer, il dit, c'est un informateur. C'est certainement un informateur. Voilà. Vayomer, allô, Zot. Vayomer, il a dit, c'est peut-être un informateur ou le messager qui lui dit. Donc, alors, c'est pas c'est lui-même qui dit.
C'est une drôle de manière de t'exprimer si c'est un matin.
J'entends. Je suis complètement d'accord que l'anomalie est il dit.
Ah, voilà.
Parce que donc la difficulté à la vidéoconférence, c'est qu'on ne peut pas distribuer des bonbons pour les bonnes remarques. Hein.
Ah, dommage. dommage. Ah,
ça me fait Meir, penser quelque chose.
Meir, notre technicien, il faut trouver une solution. Alors, maintenant, je reprends. Il envoie David s'informer sur cette femme et il dit, on aurait aimé un pluriel, il dire, si vous voulez, c'est Joseph Saloum qui est intervenu là.
C'est oui. Ça, oui.
Joseph, oui, oui. On aurait aimé il dire, ses émissaires lui dire, quoi oui. Il dit. Alors, j'ai vu l'explication. J'ai vu l'explication. Petite seconde. J'ai vu l'explication d'un livre. Il s'appelle Le Kli Yakar de Rabbi Lagnado, un racham syrien de Alep qui s'appelle Rabbi Shmuel Lagnado. Écrit un grand commentaire sur le Nar, en particulier sur le livre de Shmuel. Il explique comme ça que c'est David lui-même qui a dit. Il a dit ah mais c'est Batsheva, la femme d'Uria Hiti.
Ah.
C'est lui qui a dit. Ah. Alors, à quoi ça fait référence? Alors, j'ai recherché.
Pourquoi le Vaïdroche, l'Aïcha, en ces cas-là?
À la prochaine.
Comment? Non, au départ, il ne savait pas qui c'était.
Ah.
On lui dit qui c'est, il dit, mais c'est bien sûr, c'est Batsheva, la femme d'Uria. C'est quoi cette histoire? Alors, c'est quoi cette histoire? Et là, c'est là que ça va commencer. Lorsque David vient affronter Goliath. Maintenant, on est dans le premier livre de Shmuel. Pour ceux qui ont le livre devant eux, le livre de Shmuel, première partie, chapitre Yud-Zayin, verset Nun et Nun-Alef. Donc, on est dans Shmuel Aleph. Chapitre Yud Zayin, Pasuk Nun et Pasuk Nun Aleph. Vayechezak David min haperishti bakela. David vainquit le Philistin avec son lance-pierre et son lance-pierre et sa pierre. Il a frappé le Philistin. Vayomiteu. Il le tua, Vehérev en Beyad David, et David n'avait pas d'épée dans sa main pour tuer le Philistin. Vayarot David, Vayamod el Apelishti, Vaikar et Rarbo, David courut, se tint vers le Philistin, il prit son épée, Vaishlefa Metahara, il dégaina de son fourreau, vaïmoteu, il l'acheva, vaïchot ba être chaud, et il lui a coupé la tête. C'est un grand message humaniste, n'est-ce pas, du judaïsme et d'altérité que nous voyons dans ce verset. Donc, je reprends. David courut, se tint vers le Philistin. Les commentateurs disent qu'il se tint vers le Philistin qui était moribond. Il n'était pas mort. Vaïkar et Rarbo, il prit son épée, Vaïchlefa Metahara, et la dégaina de son fourreau et il l'acheva. Les commentateurs disent, le Midrash dit que David n'arrivait pas à enlever l'épée du fourreau. En vérité, il était moribond. Mais David a pensé que s'il ne tient pas sa tête comme ça, il n'y aura encore pas une panique. Ce qu'il veut, c'est paniquer les Philistins. Donc, ce qu'il faut, c'est que, bien qu'il va mourir dans quelques secondes, voire dans une minute ou deux, qu'il lui coupe la tête. Mais il n'arrive pas à enlever l'épée du fourreau. C'est ce que le verset dit. Il a pris l'épée et l'enleva de son fourreau, comme si l'enlever du fourreau était une gageure. C'est rien de spécial. Il prend l'épée et il le coupe la tête. Donc, l'enlever du fourreau, comme si c'était une étape qui n'était pas gagnée. Alors, le Midrash dit que Goliath, c'était Terminator 4. Goliath, c'était un homme de guerre, de légende. Enlever l'épée du fourreau, ce n'était pas possible. Et il y avait l'écuyer. Alors là, les amis, mettez vos ceintures de sécurité, ça va décoller. Les avions ne volent plus, mais notre étude, oui, elle va décoller. Là, ça va décoller. Deux choses, si vous voulez. Soit je continue, soit à la semaine prochaine.
Non, non. On a le temps.
Maïesh.
Alors.
Bien. Le Midrash dit, c'était impossible parce qu'il y avait un code secret. Il y avait un système. Un système, comme dans l'Antiquité, ils savaient faire des systèmes. Goliath, c'était un chevalier de guerre, un homme de guerre légendaire. Tout était avec des codes secrets. Impossible d'enlever l'épée du fou. Il y avait l'écuyer de Goliath, le Philistin, qui était Hittite, un goy. Il dit David, je te donne le code à une condition que je me convertisse et que j'épouse une fille juive. Il a dit ok, je te promets. Or, il y a un problème parce que c'était un Cananéen. Et un Cananéen, même s'il se convertit, il devient juif, s'écrit Lotitra Tenbam, on n'a pas le droit de se marier avec. Il peut se marier soit avec une convertie, soit avec un autre Cananéen converti. Et pas avec une juive de souche. Et David, ici, il voulait que la victoire soit éclatante. Il n'aurait pas dû accepter ce marché. Il aurait dit, ok, d'accord, non, c'est pas possible. Et les Chachamim disent que là, il a fauté. Et qui était cet écuyer,
c'est le mari d'Abigail. Oh là là.
La femme que finalement il a épousée, Uria, c'était Bathsheba.
Oh là.
Donc,
oh là là.
Ah, on va loin. Je vous ai prévenu. Donc maintenant, quand on lui dit qui est cette femme, il dit ah, voyons mère, il dit ah. C'est Bathsheba, la femme de Abror.
Il est en vérité. Sous-entendu, elle est libre pour lui.
Comment ?
Sous-entendu, elle est libre pour lui, puisque l'union n'aurait pas dû se faire.
Oui, l'union n'était pas valable. C'est comme si elle n'était pas mariée. En fait.
Non. Alors, oui. Alors, le. Au niveau juridique, il y a des peuples que s'ils se convertissent, ils sont convertis, mais on n'a pas le droit de les épouser. Mais si tant est que quelqu'un a enfreint cet interdit, les kiddushin prennent. Le mariage fait acte. Il y a des cas où le mariage ne peut pas faire acte. Par exemple, avec un inceste. Mais avec un interdit de l'otitantanibam, tu n'as pas le droit d'épouser. Néanmoins, si le mariage a été conclu, le mariage fait force de loi. Et ça, en fait, il a compris, là, David, il a compris qu'il y avait un grand problème. Il a compris qu'il y avait un grand problème, que cette femme, en vérité, elle lui était destinée. Mais le fait qu'il a failli, en promettant à ce type-là quelque chose qu'il n'aurait pas dû lui promettre, cette femme s'est trouvée au giron de Uria par sa défaillance à lui. Alors, c'est ça ce que les commentateurs disent.
Raph, qui c'est qui ramène ce chidouche sur… qui c'est qui ramène ce chidouche? C'est quoi la source de ce… chidouche que…
Alors, c'est quoi la source?
C'est quel midrash? La source du midrash?
Oui, je vous dis ça tout de suite. Une seconde. Le Al-Shir rapporte cela. Al-Shir rapporte cela. Et ce que je vous ai rapporté, c'est au nom du Kli Yakar. Kli Yakar, pas le Kli Yakar de Rabbi Ephraim Lunshitz, mais le Kli Yakar de Rabbi Shmuel Lanyado sur son commentaire sur Shmuel Aleph Yudzein. Rabbi Shmuel Lanyado.
Merci beaucoup.
Bien. Alors maintenant, c'est stupéfiant, hein?
Beaucoup.
Incroyable.
C'est stupéfiant. Alors, énorme. Regardez je vous lis ce que ce Rav Shabtai Weiss dit là-dessus. On voit ici un point stupéfiant. En vérité, l'histoire de David et la guerre contre Goliath était un dévouement miraculeux. David, le petit berger, qu'il mette sa vie en danger pour sauver le peuple juif contre cet homme de guerre légendaire, était un dévouement miraculeux. D'après l'ordre de la nature, c'était impossible qu'il puisse vaincre Goliath. Pour la gloire de Dieu, il faut voir les versets que nous avions étudiés à l'époque dans le 17e chapitre, on voit son seul objectif était qu'il n'y ait pas une profanation du nom de Dieu, que ces impies ne se moquent pas du peuple d'Israël et du Dieu d'Israël. Parce que les Chachamim disent que Goliath venait tôt le matin, venait tard le soir pour provoquer le peuple d'Israël pendant 40 jours. Tôt le soir et tôt le matin, tôt le soir, les Chachamim disent, à l'heure du Kriyat Shema, pour les perturber, qu'ils n'arrivent pas à dire Shema Israël le matin, pour provoquer le Dieu d'Israël. Donc tout l'objectif de David, c'était la gloire de Dieu. Et lui, il a pensé, maintenant il est mort. Mais si sa tête n'est pas coupée, s'il ne prend pas sa tête, il ne se promène pas avec sa tête, les Philistins ne verront pas véritablement la gloire du peuple d'Israël. Pour casser le moral des Philistins, il a estimé qu'il fallait lui couper la tête pour que les Philistins voient leur chute. Et alors, il s'est senti obligé de promettre quelque chose qui n'était pas d'après la halakha. Et de promettre à Uria, qui était un Cananéen, d'épouser une fille d'Israël qu'en vérité, qu'il se convertisse, oui, qu'il épouse une fille née juive, non. Donc là, quelque part, il a fait quelque chose, si vous voulez, qui est, comment dire, la fin justifie les moyens. Et là, il a fauté. Et c'est ce que les Rachamim disent dans la Tfila. Aser Satan milfanenu ou meacharenu. Enlève l'épreuve, enlève la tentation de nous, le Satan, de devant nous et de derrière nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lorsque quelqu'un il va faire quelque chose pour la mitzvah, il y a des choses qui vont l'empêcher de faire la mitzvah. Une fois qu'il a fait la mitzvah, il a encore une épreuve. Ce n'est pas fini. Il y a encore quelque chose qui va se présenter à lui pour le faire chuter. Et là, David, après tout cette épreuve extraordinaire qu'il a surmontée, qu'il a sauvé le peuple juif et qu'il a fait une sanctification du nom de Dieu, eh bien, il a fait quelque chose qui n'était pas d'après la halakha. Et là, il s'est pénalisé et c'était le début de la fin des haricots, cette histoire. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut vraiment... Vous voyez, moi, je refuse d'enseigner des belles choses. Le but, c'est... On voit en passant des belles choses. Mais le but, ce n'est pas ça. Que ça nous secoue. Parce que des fois, on pense que faire des choses qui ne sont pas d'après la halakha, c'est justifié. On trouve toujours des justifications. Mais on n'a pas le recul par rapport à la chose. Là, quelque part, cette femme-là, qui devait être sa femme, et même le prestige du peuple d'Israël, s'il n'était pas de cette manière, il y aurait eu un prestige d'une autre manière. Donc ici, on voit combien on est comme dit le Messie Latsiesharim, l'homme est entouré d'épreuves. On est entouré d'épreuves. Trouver le chemin droit, c'est quelque chose de... C'est ce qu'on appelle la crainte de la faute. C'est un niveau supérieur. Craindre la faute, c'est un niveau supérieur. Et là, David, il a compris que quand on lui a dit qui est cette femme, il a dit, zut, c'est cette femme. Zut, c'est cette femme. Bien. Alors maintenant, on va continuer les versets. On va continuer les versets.
Mais juste, ouais, j'avais une petite question, si c'est possible.
Avec plaisir.
Il y a écrit, sur le texte, il y a écrit Alozot bat sheva bat Eliam et Chaturia. Là, ce que vous venez d'expliquer, c'est que David a tilté comme quoi c'était la femme de Uri, l'Uri, le fameux étudiant par rapport à Goliath. Mais ce qu'il met en avant, c'est Bathsheba au départ. Au vu de cette explication, le texte n'aurait pas été plus pertinent en disant « Allo Zot, Echet Uria Acheti ». Mais, vous voyez, alors, si le texte avait dit ça, là, on aurait mis en accent, plus en évidence, le fait que cette femme, c'était la fameuse femme que Uria, que je n'aurais pas pu donner à Uria. Mais là, au départ, avant Echet Uria, il y a Bathsheba, donc il y a cette femme-là.
Il la connaissait avant.
Voilà. Ça, en tout cas, il y a Bathsheba, elle existe en tant que telle, pas en tant que femme de Uria.
J'entends ce que tu dis. Je ne sais pas répondre. Ok. Okay. Je rapporte. Hein. Alors, une seconde. Il rapporte le Rabbi Avram, le fils de Rambam. Rabbi Avram ben Rambam, lui a une chita complètement différente dans tout ce sujet. Il dit, au nom de son père, en l'occurrence Rambam, que Rambam disait sur ce sujet que Uria Ahiti, en vérité, était un guertoshav, n'était pas juif. En vérité, il y a Rambam, un shita, une démarche autonome dans le sujet, en disant, pas comme la Gemara d'Afnun Vav dans Maseret Shabbat, que, en vérité, il n'était pas juif, il était guertoshav, Kertoshav, c'est-à-dire un non-juif qui a le droit d'habiter en terre d'Israël, et que, en vérité, elle n'était pas échétiche. Elle n'était pas échétiche au niveau juridique. C'était quand même quelque part, c'était il y avait quelque chose de dégradant de prendre la femme de cet homme, même si juridiquement, d'après le droit de la Torah, elle ne lui était pas mariée. Mais c'était quelque chose de dégradant. C'est là-dessus qu'il va être pris. Ça, c'est la démarche de Maïmonide sur le sujet. Je vous le rapporte.
Ah, c'est fort.
Voilà. Alors, fort. On va faire le verset d'Alet. Vaishlar David Malachim Vaikarea Vatavo Elav Vaishkavima Veimit Kadeshem et Tumata Vatashov El Beta. Alors ce verset, il est je n'ai pas de mots, je traduis. David envoie des émissaires, il l'apprend. Elle vient vers lui, il couche avec elle et elle s'est sanctifiée de son impureté parce que quand elle était, elle se lavait de son impureté de Nida. Donc elle n'était pas Nida et elle retourne à sa maison. Voilà. Donc c'est biblique. Hein. c'est invraisemblable. Alors, les Chachamim disent aussi, qu'elle était mineure. Parce que, moi, ce que je ne comprends pas dans le sujet, c'est comment elle arrive. Elle pourrait dire, attends, stop, minute papillon. Elle arrive, elle se laisse faire, quoi, la fille.
C'est le roi, là, quand même. C'est quand même le roi, hein. C'est quand même le roi.
C'est vrai. C'est vrai.
Les gens obéissaient au roi à l'époque. Enfin, vraiment.
Puis elle ne savait pas. Elle croyait que... Voilà,
comment ?
Son attention était noble. Enfin, le roi voulait la voir. C'est tout. Ça arrête là.
Oui, mais ce n'est pas simplement pour jouer... au Mikado.
Il lui a écrit une lettre, il lui a pas dit rendez-vous dans la chambre, etc. etc. non, il lui a dit je veux vous voir pour une raison X.
De toute façon, on ne sait pas, hein. On ne sait pas du tout, il n'y a pas de détails en tout cas. Le verset est très iconique.
Vaishkavima, il couche avec elle.
Mais elle rentre chez elle après.
Elle rentre chez elle, tranquille.
Elle va pas se tirer une balle.
Terrible. Hein. Énorme. Tranquille. Elle rentre chez elle.
Alors là,
elle est violée, non ?
Comment ?
Elle est violée.
On ne sait pas. On ne sait pas. Il n'y a pas de détails.
Alors, les Chachamim analysent ça. Les Chachamim analysent ça qu'il y a ce qu'on appelle Pitouy Ktana Ones U.
Voilà.
Que séduire une mineure est un viol. Tu lui dis à une mineure, tu lui dis je vais t'acheter une poupée Barbie et laisse-toi faire, c'est un viol. Ils le disent à ce sujet, que lui finalement il a abusé quelque part de son ascendant de roi, comme vous le dites vous-même. Hein? Mais il y a plusieurs, je vais vous dire. Il y a plusieurs sortes de viols. Il y a X années, quand j'habitais Strasbourg, j'étudiais le deuxième chapitre de Ktubot. Le deuxième chapitre de Ktubot, un des sujets principaux, c'est que une femme mariée, juive, qui est violée, reste permise à son mari. Bien. une femme d'un Cohen violé, interdite à son mari, Cohen. Une femme d'un mari pas Israël, pas Cohen, qui est violée et permise à son mari. Maintenant, si elle est séduite, si elle est consentante, elle est interdite à son mari. Bien. Maintenant, le problème, la femme d'un Cohen captive. La femme d'un Cohen captive. En captivité. A priori, elle revient de captivité, elle est interdite à son mari Cohen, parce qu'on a une estimation, une femme en captivité, elle est violée. Il y a un seul cas, s'il y a une autre femme qui dit, tout le temps de captivité, je ne l'ai pas quittée, on était main dans la main tout le temps, elle, sur ce témoignage, elle peut rester avec son mari Cohen. Alors, comme votre interlocuteur n'a pas la langue dans sa poche, j'ai posé la question à ma belle-mère qui était à Auschwitz. J'ai dit, « Chère belle-mère, comment c'était là-bas ?» Vous pouvez arrêter, vous pouvez sortir de la vidéoconférence si vous voulez. Hein. Bon, elle ne m'a pas tout raconté. Elle ne m'a pas tout raconté. Je ne sais pas, j'ai su des choses... Plus récemment, après son décès, elle avait enregistré des choses. Bon. Mais, parce que je lui ai dit que d'après ce que j'ai cru, d'après ce que j'ai lu, les soldats russes violaient systématiquement les femmes. Donc, est-ce qu'elle peut témoigner de quelque chose? Je lui ai demandé. C'était une femme exceptionnelle, d'une intelligence supérieure. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu parles des Russes? Mais les Américains, c'était pareil. Mais les Américains, ils s'y prenaient différemment. Ils donnaient une plaquette de chocolat. C'est fort, hein? Je ne sais pas, vous appréciez, non? Je sais pas. C'est-à-dire, il y a plusieurs manières de violer. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire violer? Ça veut dire, il y a plusieurs manières d'enlever la possibilité de décision à l'autre. Ça s'appelle par les coups, ça s'appelle par autre chose. Ça s'appelle pitouï ktana onesu. Que séduire, c'est une incidence. Parce que dans la Torah, un homme peut épouser une femme mineure. Par exemple, le père de cette fille peut la donner en mariage à quelqu'un. Donc tu peux avoir un Cohen qui est marié à une fille mineure. Et disons, il y a un témoignage qu'elle est partie avec un type de manière consentante. On dit non, une petite, ça n'existe pas consentante. Elle a tourné la tête, ça s'appelle une contrainte. Ça s'appelle une contrainte. Okay. Donc là, les Chachamim nous disent que Bathsheba était mineure. Donc ils disent que là, elle avait pas de marge de manœuvre dans cette histoire.
Dans le Rada qui ramène le traité Shabbat, où il dit que qui kol ayotze le mihama des David get tout kotel leishto. Est-ce tout celui qui sortait en guerre dans
oui,
la
non,
guerre.
Mais ça,
il avait un get. Elle avait un get.
Oui, on va voir ça. On va voir ça. Non, moi je m'interroge là sur un autre point. Comment ça se fait qu'elle se laisse faire néanmoins.
Mais si elle est pnouya,
mais c'est pas la démarche de Rachid.
Peut-être. Mais en tout cas, Radak dit comme ça.
Oui, d'accord.
Il y a pas mal de mefarshim qui vont dans ce sens-là.
Oui, d'accord. On va voir ça. On va voir ça dans un deuxième temps. Ok. Bon, mais en tout cas, si elle retourne chez elle, elle est tranquille. Alors, verset suivant. Ça aussi. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? La dernière fois, quand on a vu ça, il y a 3 semaines, encourage à apprécier le style du texte. Là, on pourrait dire l'économie de mots pour dire des continents d'émotions. Vata'ar Aïcha, Vatishlar, Vatakel David, Vatomer, Ara, Anochi. La femme fut enceinte. Ah, vous allez me dire, je viens de dire qu'elle est mineure, donc a priori elle n'est pas nubile. Les Chachamim disent que la capacité de fécondité à cette époque était beaucoup plus tôt. La femme est enceinte et l'a envoyée dire à David en disant Ara Anochi, je suis enceinte. Regardez comme c'est. Et t'es content, Damien? Non, je sais, appréciez les. Elle lui envoyait un message, je suis enceinte. Ça veut dire, c'est deux mots, c'est un continent. Ok. Alors maintenant, on va voir effectivement la Gemara citée par le Rada que tu cites, notre ami Yohanan. La Gemara d'Afnoun Vav. Alors, je n'ai pas demandé à Meir de faire des photocopies, mais je vais vous la lire. Hein. On l'a lu il y a 3 semaines, mais je la reprends. Afnoun Vav dans ma Maaseret Shabbat. Amar Rav Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Kol haOmer David Chata Eno Elatoe, Sheneemar, Vayi David Lechol Dechachav Maskil Vashem Imo. Rabbi Yonatan dit, quelqu'un qui dirait que David a fauté n'a rien compris. Pourquoi? Parce que le verset dit que David était dans tous ses chemins réfléchi et Dieu est avec lui. Comment tu peux dire qu'il aurait fauté et que Dieu dise à son sujet que Dieu est avec lui, la présence divine avec lui? Ah, mais quand dans le prochain chapitre, le prophète Nathan va dire, comment on peut alors rendre compatible le verset qui dit « Madoua bazita elvar Hashem la sotara » Pourquoi as-tu dénigré la parole de Dieu pour faire le mal? Réponse. « Shebikesh la sot veloasa » Il était prêt à faire. Même si elle eût été 100% mariée, il serait allé avec elle. Mais finalement, elle n'était pas mariée. Il était prêt à fauter. Mais il n'a pas fauté. Amar Rav. Rabbi dit, Rabbi, d'Atem et David, ma ferve et d'Arib et Sroté de David. Rabbi, celui qui a écrit la Mishnah, est un descendant du roi David. Alors, il cherche tout le temps à trouver du mérite à David, à chercher le comment on peut défendre David. C'est comme ça qu'il explique. Madoua bazita edvar Hashem la sotara. Pourquoi as-tu dénigré la parole de Dieu pour faire le mal? Rabbi Omer, meshuna razo mikol raot sheba Torah. Le mal dont on parle est différent de tous les maux dont on parle dans la Torah. En général, il a fait le mal. Alors on parle pour faire le mal. Il était prêt à faire. Ah, mais c'est écrit, tu as tué Uria le Hittite. Tu as tué Uria le Hittite avec le glaive, comme on va voir dans la suite. Non, tu aurais dû le juger au tribunal, mais tu ne l'as pas jugé. Ah, et sa femme, tu as prise. Sa femme, le prophète dit, sa femme, tu as prise comme femme. Réponse, tu peux la prendre. Elle est célibataire. D'Amar Rav Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan, parce que le même nous dit, Kol ayotse les mirtemes de David, kotet get kritut ishto. Quand quelqu'un part à la guerre de David, avant de partir, il écrit un acte de divorce à sa femme. Alors là-dessus, il y a une marloquette entre Rashi et son petit-fils Rabbeinu Tam. Rashi explique. Get Kritut, il écrit un acte de divorce pour sa femme. Regardez Rashi, je ne sais pas pour ceux qui ont la Gemara. Il écrit un get à condition que s'il meurt à la guerre, elle sera divorcée rétroactivement. pamim shutarut betseto vesholcho min hamilchama. Et parfois, il est perturbé et il l'envoie de la guerre. Donc ça veut dire, d'après Rashi, que le point c'est le suivant. Ceux qui partaient à la guerre de David, parce que quand quelqu'un part à la guerre, des fois, il disparaît. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Peut-être et on ne retrouve pas son corps. Les ennemis ont pris son corps, l'ont jeté dans une fosse commune. Et jamais cette femme ne pourra se remarier. Alors, ceux qui partent à la guerre de David, ils disent comme ça. Avant de partir, ils donnent un guet. Et ce guet à condition, si, quand la guerre sera terminée, je ne serai pas rentré, rétroactivement, tu seras marié. Or, qu'est-ce qui s'est passé avec David ? C'est que comme, on va voir plus tard, Ouria a fauté, David a considéré qu'il était passible de mort par crime de lèse-majesté, et David l'a envoyé au casse-pipe. Finalement, après cette histoire, il a fauté, il était allé au casse-pipe, il n'est pas revenu de la guerre. Donc, rétroactivement, elle n'était pas mariée. Mais ça, c'est, il a gagné un concours de circonstances. Pourquoi ? Parce que au moment où il est allé, il ne savait pas. Est-ce qu'il allait mourir à la guerre ? Donc, c'est toute une suite d'événements qui ont fait l'un dans l'autre que finalement, il est mort à la guerre. Et rétroactivement, il n'a pas fauté. Ça, c'est quand même, c'est pas très folichon. Qu'est-ce que tu en penses, Emmanuel, dont je vois le visage en face de moi ?
C'est un moins qu'on puisse dire quand tu dis que c'est pas très folichon. Hein ?
Hein ?
Une reconstruction complètement intellectuelle, mais je veux dire, sur le moment où il est.
C'est pas intellectuel, il n'était pas marié.
Quand il était pas marié.
Mais ça n'enlève pas le viol.
Quel viol ?
Bah, si on dit qu'elle a été violée, elle était mineure.
Non, mais pourquoi tu dis pas. Il était pas... Non, mais tu quand tu dis qu'il n'est pas marié.
Bien,
le viol, non, si tu veux.
Ok, le mariage, très bien. Par une ingénierie juridique totalement contestable, ok, mais il l'a toujours. Enfin, ce que je comprends, ce que vous dites, c'est qu'il l'a toujours violé. Donc il est passible.
Non, violé. Disons, je ne dirais pas qu'il l'a violé. Il a abusé de sa position. Mais, le point, c'est le suivant.
Non, mais le point, c'est qu'il.
C'est pour ça que ce passage est un point très délicat. Qu'est-ce qui s'appelle fauter ? Disons que là, en présence de vous, je prenne deux bouteilles de rouge, de vin cachère, que je les enfile et que je me vautre par terre. Est-ce que j'ai fauté ?
Non.
Non ? Le vin, il est cachère. Bon, c'est bon. Non, ça veut dire, est-ce que c'est bien ?
C'est pas immoral. Bien.
Ah, Khaza, il y a une différence entre une faute et la morale. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et ça, c'est le point. Quand Rabbi Yonatan dit, celui qui dirait que David a fauté, n'a rien compris, c'est la définition. Qu'est-ce que c'est une faute ? Une faute est quelqu'un. Si vous voulez, nous, on est dans un monde bizarre. Je ne sais pas si vous avez remarqué en quoi notre existence est bizarre. Elle est bizarre. On est dans un monde bizarre, complexe. Quand la Gemara dit d'entrer dans le traité Nida, que l'aneshama, l'âme, quand elle vient dans le monde, elle ne veut pas venir dans ce monde. Je ne veux pas venir. Je ne veux pas. C'est pas bien. Je n'aime pas. Je ne suis pas en confiance. Je peux rester là-haut. Je suis bien là-bas. Non, tu as des choses à faire sur terre. Mais c'est trop compliqué. Je ne vais pas m'en sortir. Alors on dit, Dieu, il fait jurer l'âme. Sois sadique et ne sois pas rachat. Une fois que tu as juré, c'est bon, on y va. Ouais. Mission terrestre. On arrive sur Terre. Salut les mecs, on est arrivé sur Terre. On est là. Ta, 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 on est sur Terre. OK, bien. Maintenant, diantre, fichtre. C'est un peu compliqué toute cette histoire. Il y a des pressions à droite, des pressions à droite, des trucs, des machins. C'est extrêmement compliqué. La base, ne pas frotter. Ah maintenant, ça, tu me demandes encore autre chose. Tu me demandes d'être moral. J'ai pas dit. J'ai dit que je ne vais pas fauter. J'ai pas dit que je vais être moral. C'est encore autre chose. Ça, c'est un point très, très important. Ça, c'est un point très, très important. Que David est la réalité. Comment c'est possible d'être sur terre, de servir Dieu? L'essentiel, c'est ne pas fauter. Maintenant, la moralité, c'est encore autre chose. Cette histoire-là, voilà, il n'a pas fauté. Finalement, est-ce qu'il a mangé du porc? Est-ce qu'il est allé avec une femme mariée? Il n'était pas marié. Ah! Mais quand il est allé avec, il était prêt à aller avec une femme qui n'était pas mariée. Il était prêt, c'est vrai. Résultat, il n'a pas fauté.
Non, mais elle n'était pas mariée parce que le divorce est rétroactif. C'est très, quand même très, très particulier. Je pensais à un truc d'ailleurs qui est terrible
alors,
quand tu racontes
alors, ça. Emmanuel, Tosfot, Rabbeinu Tam, petit-fils de Rashi, s'oppose frontalement, dit « je ne veux pas entendre parler d'un truc comme ça ». Il faut dire qu'elle a été comme… qui a cité tout à l'heure, c'est Yohanan, tu as cité le Radak, qui dit non, que celui qui part à la guerre de David donne un acte de divorce franc. Après, quand il revient de la guerre, il réépouse sa femme, mais elle n'était pas du tout mariée. Ça, c'est la démarche.
Là, c'est plus mignon.
D'accord.
Bah, dis donc, ça veut dire que, parce que sinon, si on prend le divorce rétroactif, ça veut dire que quand un mari part à la guerre, la femme, elle se prend un amant. On voit que c'est une chance pour les enfants, parce que s'il a un enfant avec lui, si elle a chance, entre guillemets, que le mari meure, l'enfant n'est pas mamzer.
Mais non, mais la rétroactivité.
Encore faut-il qu'il mourût.
Il ne revient pas, je veux dire.
Il y a une nuance qui est importante.
Mais l'effet rétroactif est beaucoup plus vraisemblable. Alors, c'est-à-dire qu'elle reste mariée.
Mais encore faut-il qu'il ne revienne pas.
Là, ce qui est quand même important, c'est que la guerre, elle est finie. Donc, ça veut dire qu'il aurait dû revenir. Donc, du fait que ça le met à tnaï, il y avait un tnaï qu'il fallait qu'il revienne et qu'il ne revient pas et que la guerre, elle est finie, elle est finie. La guerre, elle est clairement finie. On vient de nous le dire dans le passage juste avant que la guerre, elle est finie.
Non, pas du tout. Elle c'est en pleine guerre. On n'a pas fait la suite des versets. Mais la guerre est en pleine guerre. Il va mourir à la guerre. Il va mourir après.
Mais il ne faut pas qu'il meure. Il faut qu'il disparaisse pour que ça marche.
Non, qu'il meure ou disparaisse, c'est la même chose.
Il meure, c'est rétroactif aussi.
Il meure, c'est rétroactif aussi. Tout non-retour de la guerre rend rétroactif le guet.
Oui, mais si.
Alors là-dessus, le Maharal. Si meurt,
elle avait même pas
alors, le Maharal, regardez, le Maharal a fait un grand développement de le Beragola sur ce point. Voilà. Il a fait un grand développement que je vous ai envoyé les photocopies, mais je vais essayer de synthétiser un point parce que nous, on est, comment dire, choqués. Moi, personnellement, je ne suis pas choqué, mais je sais que quand... je sais que vous êtes choqués. Personnellement, je ne suis pas choqué parce que c'est toute la problématique de manière générale du roi David. La problématique, c'est le roi David représente l'existence sur terre de celui qui sert Dieu. Comment sur terre on peut servir Dieu? Il y a tellement de pression que que notre but est de ne pas fauter. Maintenant, toi, tu dis, c'est pas moral. C'est pas moral. C'est une autre paire de manches. Il y a un autre sujet parallèle à celui-là qui est développé dans le 11e chapitre du traité Sanhédrin. Le sujet là-bas, en vérité, c'est le sujet là-bas qui m'a permis d'éclairer le problème. La Gemara dit, dans le 11e chapitre, je ne sais plus exactement le daf, la Gemara dit que jusque l'avenue du Mashiach, il y aura les nations attaqueront toujours le peuple d'Israël sur le point suivant. Lorsque David était poursuivi par le roi Shaoul, on a vu plus haut, des chapitres plus haut, qu'il était dans les monts de Judée avec des soldats, avec des compagnons à lui, un groupe qui s'est étayé petit à petit, et ils mouraient de faim. Ils étaient poursuivis par la police secrète de Shaoul et ils mouraient de faim. David, il s'est dit, il faut qu'on sorte de cette famine. Il est descendu dans la vallée, il y avait la ville de Nov. Le Mishkan était à l'époque à Nov. L'Arche d'Alliance était chez les Philistins, mais l'endroit principal où on faisait les sacrifices était à Nov. Il est allé à Nov et il a demandé au Kohen Gadol qu'il lui donne à manger. Les gens ne savaient pas que Shaoul poursuivait, voulait tuer David. Parce que David, c'était un héros. Il avait sauvé le peuple juif de Goliath. C'était le chouchou de tout le monde. C'était aussi le gendre du roi. Il ne savait pas que secrètement, le roi voulait le tuer. Il demande à Ahimelech à manger. Le Kohen Gadol lui donne à manger. En arrière-salle, il y avait Doeg, l'Éduméen, qui savait que Shaoul voulait tuer David. Et il a trahi le Kohen Gadol. Il a dit à Shaoul que le Kohen Gadol a donné à manger à ton ennemi. Qu'est-ce qu'il fait Shaoul ? Shaoul vient avec ses soldats. Il assassine tous les Kohanim de la ville de Nov en représailles. La Gemara dit, dans le traité Sanhédrin, que les nations accuseront jusqu'à l'avenue du Mashiach David, que c'est à cause de David que les Kohanim ont été tués. Qu'est-ce qu'il est allé demander à manger aux Kohanim ? Il savait qu'il les mettait en danger. Donc finalement, c'est vrai qu'il y a un rachat qui s'appelle Doeg qui a trahi David. C'est vrai que Shaoul, c'est lui qui a massacré les Kohanim. Mais tout ça, c'est à cause de David. Les Chachamim répondent. Mais ça, il n'a pas mis en danger activement. C'était Grama. C'est de manière indirecte qu'il les a mis en danger. Il y a une différence. Mettre en danger de fait et mettre en danger de manière indirecte. Je vous donne un exemple. On est dans le confinement. Je vais aller voir mon copain Emmanuel Doufchani. Je lui tape comme ça. « Salut mec, comment tu vas ?» Et je lui fais la bise et je postillonne. Est-ce que je le mets en danger ?
Un peu.
Comment ?
Un peu quand même.
Je non.
Je sais pas. Moi, je suis même pas supporter, oui ou non. C'est pas sympa. C'est pas légal. Bah, actuellement, on le fait pas. Mais est-ce que vraiment je t'ai mis en danger ? Ça veut dire, c'est quoi mettre en danger ? Dans notre vie, il y a toujours on risque de faire des choses. Il est allé demander à manger. C'est vrai qu'il était dans une situation d'un danger diffus. Mais dire que c'est lui qui a massacré, c'est à cause de lui que les Kohanim ont été massacrés, ça, c'est quelque chose qui sort de notre capacité humaine. Nous, en tant qu'êtres humains, on ne peut pas assumer des choses qui dépassent notre capacité. Et viendra un moment où on se rendra compte que l'homme n'a pas prétention d'être moral, mais d'être juste. Il y a une différence entre être juste, être droit, être moral. Ça, c'est une différence fondamentale. Je ne vous demande pas d'être d'accord, hein. Mais c'est quelque chose de fondamental.
Mais on touche quand même à la question du Kiddush Hashem ou du Chilul Hashem.
Comment ?
On touche quand même à la question du Kiddush Hashem ou du Chilul Hashem.
Alors voilà, la faute de David, c'est que ça a été une profanation, du nom. Il n'a pas fauté, mais il a c'est un mauvais exemple. Voilà, un mauvais exemple.
Comme si vous parliez avec Emmanuel.
Comment ?
Comme si vous parliez avec Emmanuel et que vous postillonnez. Ce ne serait pas un très bon exemple, en fait.
C'est pas un bon exemple. Après, tout le monde va le faire et la maladie va se propager. Mais si tant est que je l'ai fait, c'est juridiquement, ce n'est pas une faute. Vous le dites très bien, c'est un mauvais exemple. Un mauvais exemple et une faute, c'est pas la même chose.
Mais pourquoi il va payer après ?
Comment ?
Pourquoi il va payer avec la mort du nouveau-né ?
De cet enfant, ensuite l'histoire d'Avshalom,
okay,
etc.
Non, mais pourquoi alors ? S'il n'a pas fauté, pourquoi pourquoi le prophète va arriver en disant tu fais n'importe quoi ? Je comprends pas en fait la suite. En fait. S'il n'a pas fait de faute. S'il n'a pas fait de faute, c'est quoi cet événement d'un enfant qui va mourir, etc., etc. C'est là où je comprends plus rien.
Disons, moi je n'ai pas la solution, hein. Mais de notre dialogue, je dirais, comme l'histoire de l'épée, en vérité, de Goliath, c'est la délivrance, elle est là, elle est devant nous, mais on est impatient. On croit que la délivrance est dans nos mains, quand en vérité, c'est pas nous qui amenons la délivrance, c'est Dieu qui l'amène. Cette femme, les Chachamim disent, c'était indubitablement sa femme. Ne force pas la situation. Attends. Et les Chachamim disent que la faute de David avec Bathsheba ressemble à la faute d'Adam et Ève avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Que s'ils avaient attendu Shabbat, alors ça aurait été permis de manger fruit de la connaissance. Il fallait manger d'abord de Etz Achaim avant l'arbre de la connaissance. Cette femme, c'était pour David, mais il a forcé la situation. C'est l'impatience. Ça, c'est ce que les Chachamim disent dans la suite de la Gemara du traité Shabbat.
Oui, mais c'était le jour de son migvé aussi.
Comment ?
C'était le jour de son migvé aussi, il a fait une mitzvah.
Ah ben d'accord, mais le mari, il est à 500 km, je ne comprends pas.
Non, mais si c'est lui le vrai mari, si c'est lui qui est destiné parce qu'il se sépare, par exemple, comme...
Non, mais à l'époque, ils allaient... Non, mais à l'époque, ils allaient au mikvé pour que ce qu'ils fassent, pour ce que le manger qu'ils préparent soit à or, hein, ce n'était pas que pour le couple.
A priori, d'après le passouk, il y a quand même cette idée de beaucoup d'échettes. Par rapport de Satouma. Donc, ça semble lié quand même à ça.
Oui, c'est-à-dire c'est du gâchis, quoi.
Non, c'est ça vraiment... C'est le, voilà. On parle bien de son état de Nida. Donc, c'est...
Alors,
donc, voilà.
Je vous résume en quelques mots ce que dit le Maharal dans le Beragola, parce que si David était prêt à fauter, comment finalement il se trouve que rétroactivement, il n'a pas fauté d'après la démarche de Rashi, et le Maharal prend à son compte complètement la démarche de Rashi, pas comme Rabbeinu Tam. Il dit que David était tellement chassid, tellement tzaddique, que on dit Raglé chassidav ishmor. Dieu protège ses chassidim. Dieu a protégé David de ne pas fauter. Ça nous paraît difficile, ça nous paraît pas juste, mais Raglé chassidav ishmor, que on se dit, mais comment c'est possible? Finalement, il était prêt à fauter. Oui, mais comme il était tellement chassid, tellement investi toute sa réalité dans le service de Dieu, que là, dans cette dimension, dans cette épreuve très, très complexe, Dieu l'a protégé. Dieu l'a protégé. Je vous le rapporte tel quel, je ne dis pas que j'ai intégré la notion, mais je vous le rapporte pour que vous sachiez que cette notion existe. Voilà. Regardez, on s'arrête là pour le moment. Si vous avez des questions, et la prochaine fois, Bezrat Hashem, on continuera, je ne sais pas dans quelles circonstances, dans les meilleures circonstances pour tout le monde, et on continuera avec l'histoire du crime de lèse-majesté que fera Ouria dans la suite des versets. Est-ce que vous avez des questions?
Oui, je reviens sur l'histoire de la morale. Je reviens sur l'histoire de la morale et de la justice. Est-ce qu'on peut dire, par extension, que si les goy nous reprochent ça jusqu'à la venue du Mashiach, c'est que justement, ils raisonnent en termes de morale. Ils mettent la morale avant la faute. Pour eux, il faut que le comportement il soit... que le paquet il soit joli, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on dit que les idolâtres servent les images, que c'est un peu... ils veulent que ça soit beau.
Ouais.
Ils veulent que ça soit esthétique. Or, l'existence est notre passage et l'exemple par excellence de quelque chose qui n'est pas esthétique. Vous savez que, par exemple, quand Israël est attaqué dans les années précédentes, souvent Israël était attaqué et Israël se défendait comme il pouvait. Et toujours il disait « oui, mais vous avez tué des civils, etc., machin, bidule ». Ils attendent que lorsque on se défend, on s'assoit comme des angelots. Quand on se défend, on se défend. C'est comment dire, vivre est inesthétique.
Uh-huh.
Vivre est inesthétique.
Uh-huh.
Et me semble-t-il que le Mashiach, il fera découvrir qu'en vérité la richesse véritable, c'est pas l'image des choses, c'est pas le médiatique des choses, mais c'est pas le... Par exemple, ça me vient comme ça. Une fois, quand j'ai sorti mon premier livre, Le désir des désirs, il y avait un philosophe, je me trouvais dans une circonstance, il y avait un monsieur philosophe, je sais pas, il m'a dit, mais dites-moi, c'est quoi le message de votre livre? Je ne sais pas, ce sont des études talmudiques. Mais dites-moi, quel est votre message? Je dis, je ne crois pas que vraiment j'ai un message. Il me dit, oh là là, vous les juifs. Non, mais c'était une expérience intéressante. Il m'a dit une remarque très, très antisémite, en vérité. Hein. Sincère, il était sincère. Il dit, oh, vous aussi. Mais le problème de l'existence, vivre, prenons un exemple. Prenons un exemple. Dans les pays occidentaux, il paraît que c'est répréhensible de donner des claques à ses enfants. Bon, maintenant, quelqu'un qui tabasse ses enfants systématiquement, ça, c'est quelque chose de complètement répréhensif. Mais dans le droit juif, les Chachamim nous disent Choser shifto sonebeno, que lui, celui qui s'empêche de frapper son enfant est le signe qu'il le hait. Maintenant, c'est pas beau de frapper son gosse. C'est pas beau, mais parfois il faut le faire. Si tu l'aimes, pourquoi tu le frappes? Eh bien, justement, parce que je l'aime, je le frappe. Maintenant, si tu le tabasses, frapper, tabasser, ça n'a rien à voir. Mais quelque part, parfois, c'est nécessaire de s'engager. Justement, comme j'aime mon gosse, je ne peux pas supporter qu'il fasse ça. Donc, je le frappe.
Il est plus facile de frapper que de parler.
Comment ?
Il est plus facile de frapper que de parler.
Non, mais d'accord, mon ami. Je ne dis pas qu'il faut le faire systématiquement, mais me semble-t-il que quelqu'un qui ne frappe pas une fois, de temps en temps, son gosse, c'est débile, c'est un débile mental. C'est quelqu'un qui est hors de la réalité. Hors la réalité dans le réel, le dévoilement de la volonté de Dieu est dans le réel et pas dans les concepts, c'est dans le réel. Or le réel, parfois, il n'est pas esthétique du tout. Pas du tout.
Est-ce que on peut prendre comme exemple quand il y a eu le commandement dans la guerre de Amalek et d'aller tuer tout le monde, y compris les femmes, les enfants, etc. Et qu'il s'est réfréné. Il a voulu faire quelque chose de joli, de moral. Il n'a pas tué les...
Et là, il a fauté. Voilà, très bien, très bien. C'est le sujet. C'est le sujet. Ok, mes amis, je vous remercie.
Merci,
et
merci Ram.
On approfondira. Et encore, on a ouvert des pistes, on n'a pas clos, bien évidemment, le sujet. Et je vous remercie. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Salut les amis. Au revoir.